fazer do bonito feio. Só não posso abandonar o coração de quem me quer. Eu só não posso é fazer do bonito feio. Só não posso abandonar o
Bonsoir à tous, ici Félix au micro de Radio Galère au 88.4. L'entendez-vous, ce vent automnal qui fait bruisser les feuilles, et ses ondes d'ailleurs, les mercredis de 19h à 20h? La forêt des possibles est ravie de porter la voix de tous ces arbres provençaux qui contribuent à nous mener, chères auditrices, chers auditeurs, vers des futurs plus matériellement soutenables et bien sûr, plus humainement souhaitables. Afin de faire écosystème, nous bâtissons ensemble un large réseau mycorhizien. Qui dit réseau dit plusieurs, qui dit mycorhizien dit champignons. J'en profite donc pour vous parler de mes champipotes du soir, Marin Mauffray. On ne te présente plus, tu es avec moi en régie. Comment est-ce que tu vas ce soir ?
Bonsoir à toutes et tous, et je suis ravi pour cette première où nous allons faire des petits tests pour pouvoir aussi vous enregistrer, vous filmer et donner à voir encore plus de ce qui se passe pendant ce podcast.
Jeanneret, c'est toi la boss de la régie aujourd'hui, mais ton énergie rayonnante inspire la poésie de cette intro loufoque. Comment est-ce que tu vas, Jeanne ?
Bonjour Félix, merci. Je ne garantis rien pour la régie, il y a déjà eu des petits cafouillages, mais bravo pour cette intro, magnifique.
Eh bien, c'est pas fini. Pour communiquer, nous champignons, mais enfin, vous le savez, vous qui likez notre Facebook, scrollez nos Reels Insta ou encore republiez nos posts LinkedIn, nous dépendons surtout grandement de nos ordinateurs et téléphones. Parfois, toujours au mauvais moment d'ailleurs, ceux-ci finissent par, telles les feuilles de la forêt, tomber, en désuétude ou par effet de la gravité. Pour les feuilles, une armée d'insectes, vers, arachnides, gastéropodes, crustacés, autres myriapodes, oui je me suis un peu perdu, se liguent alors pour refaire de cette matière morte sol vivant. Pour les ordinateurs, ils finissent à la poubelle, à la casse, mais surtout, dans le placard de ma chambre chez ma mère. L'invité de ce soir, c'est Mirabelle Lamoureux. Elle est CEO de Keep et il me semble qu'elle a une meilleure solution. Comment tu vas ce soir, Mirabelle ?
Ça va très bien, et toi ?
Ça va super, merci. Alors, je vais te dire deux mots sur Keep, mais tu le sais, on va commencer par parler un petit peu de toi. Donc, Keep, c'est une entreprise qui fournit de l'équipement informatique reconditionné. Voilà, ça c'est pour les auditeurs, pour vous garder un petit peu avec nous. Mais on va commencer, comme je disais, par parler de toi, de ton parcours. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu ton histoire, le parcours qui t'a amené à récupérer Keep, puisque tu m'as dit que tu avais récupéré Keep.
Tout à fait. Bah, Keep, effectivement, je ne l'ai pas fondée, c'est une reprise. Donc jusqu'au bout, hein, je fais de la seconde main et de la récup. D'ailleurs, c'est un petit peu un ADN chez moi. Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Comme beaucoup de gens, hein, je pense que j'ai grandi dans une famille où on ne jette pas. On récupère, on répare. Il y a toujours moyen de préserver les choses et de les garder le plus longtemps possible. Et je pense que ça s'est ressenti sur plein de choses qui pouvaient beaucoup me frustrer quand j'étais petite. Par exemple, quand au collège on lit Le Malade Imaginaire et que moi on me dit que je n'aurai pas la même édition que tout le monde parce qu'on ne va pas racheter ce livre alors que tous tes cousins l'ont dans leur bibliothèque. C'était des choses qui ont toujours été évidentes pour nous. Je pense qu'ils font partie du bon sens de beaucoup de générations. Et qui, voilà, moi, on fait que... je suis un peu obsédée par le fait de garder ce qu'il y a d'existant et de le prolonger, de lui offrir une seconde vie et de le valoriser le plus possible. Et jusque dans l'informatique, et qui n'est pas un hasard parce que j'ai jamais eu d'ordinateur neuf, ni de téléphone neuf. C'est un peu on a toujours un peu baigné dans le reconditionné chez moi. Mon père avait une boutique de réparation d'ordinateurs et de vente d'ordinateurs de seconde main.
Incroyable.
Ouais, quand j'étais petite. Donc à l'époque, c'était pas du tout comme on le connaît aujourd'hui. Hein. C'était pas écolo, engagé. Il n'y avait pas eu Vinted, il n'y avait pas eu Back Market.
Bah, c'était juste normal parce que c'était moins cher aussi.
Exactement. C'était une boutique Orange Fluo qui faisait très finalement easy cash. Et donc, maintenant, on a la chance que ce soit... beaucoup plus dans les préoccupations des gens. Moi, à un moment, je me suis retrouvée, je pense comme beaucoup de personnes de ma génération, en plein Covid, à me demander si ce que je faisais avait du sens et comment je pouvais peut-être avoir une activité professionnelle qui ne soit pas nocive pour la planète et pour ceux qui l'habitent. Mmh. Voilà. Et donc, voilà, moi, j'étais au chômage technique puisque j'ai fait beaucoup de... j'étais plutôt partie dans l'audiovisuel pour le début de ma carrière. Voilà, je faisais de la production. Moi, j'aimais raconter les histoires, les produire. C'est toujours quelque chose qui m'a tenue à cœur. Et puis aujourd'hui, je pense que je me sers aussi de ça pour continuer un petit peu à raconter cette histoire familiale de la récup. Et puis voilà, j'ai eu l'opportunité de me lancer dans la seconde main et super heureuse aujourd'hui de pouvoir en vivre.
Et ça ne t'a jamais quitté. Et je pense que c'est pas facile quand on est enfant. Bah, tu parlais de ce malade imaginaire qui était à tes cousins, tu vois, de te dire, en fait, moi, j'ai pas le truc neuf. Enfin, moi, en tout cas, je viens d'une famille pas très aisée non plus à la base. Et en fait, c'est vrai que t'as ce truc de ces différenciants, de pas avoir la même chose que les autres. Et c'est trop cool que t'aies réussi à en faire une force. Ça, chapeau, bah. Est-ce que tu as un événement particulier qui a... je ne sais pas si tu as des lectures ou des films qui peuvent permettre de faire fleurir un peu plus cet imaginaire. Parce que tu nous dis que ça, ma question à la base, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a créé ce déclic? Mais du coup, tu nous parles de Covid, tu nous parles de ton histoire familiale. J'imagine que juste ça a fait un paf.
C'est ça, exactement. C'était un moment où vraiment je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard dans la vie parce que... Voilà, je suis arrivée au bout d'un contrat. Il y avait toutes les chaînes qui étaient à l'arrêt parce que, on produisait plus de nouveaux contenus. On faisait que de la rediffusion pendant le Covid. Et de l'autre côté, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée dans le reconditionné et de reprendre donc cette entreprise Keep qui existait déjà. Où en fait, je me suis dit finalement, mais oui. C'est une industrie que je connais, c'est quelque chose qui fait profondément sens pour moi, qui a toujours été évident. Et je me souviens, le moment où peut-être il y a eu un vrai déclic, c'est que je faisais pas mal d'associatifs à l'époque. Mmh. Et notamment avec une structure dans laquelle j'étais bénévole, on se posait la question de « il faudrait racheter quelques ordinateurs ». Et le réflexe était « on va à la FNAC ». Et pour moi, c'était évident que non. Enfin, déjà parce qu'on n'a pas de sous, on n'a pas de budget. Donc, on va aller sur Back Market. Enfin, c'était ça, à l'époque, le plus évident. Et je me suis dit, c'est vrai que quand on est une structure, on a besoin d'acheter un petit peu de volume. On n'a pas le réflexe d'acheter du reconditionné. Alors que tout le monde dans l'équipe aurait acheté son téléphone de seconde main. Mais là, maintenant qu'on devait l'acheter pour une association, c'était plus si évident. Et ça m'a un peu poussée à me dire, en fait, tous ces petits gestes qu'on a un peu adopté au quotidien chez nous, qui sont écologiques, mais qui sont aussi avant tout économiques, on ne va pas se le cacher. Donc on achète sur Vinted, on prend des douches plus que des bains, on fait attention au chauffage d'hiver. Mais quand on passe la porte d'une organisation, une entreprise ou une asso, on a tendance à les oublier.
Et est-ce que ce n'est pas un peu lié à ce que je te disais tout à l'heure de l'image? Est-ce que pour une entreprise, tu vois, il faut que ça soit pro, donc ton MacBook ou que sais-je, ton ordi, il est neuf? Du coup, ça peut-être. De toute façon, on en parlera un petit peu plus tard, mais ouais, peut-être qu'il y a ce frein encore de.
Il y a complètement un frein sur l'image. Moi, je vois encore passer aujourd'hui des offres d'emploi où, dans les avantages à la fin, on dit rémunération, ticket restaurant et dernier iPhone. Mm. C'est un avantage en nature, quoi. Ouais. Et c'est un objet de statut, quoi, qui vraiment valorise les salariés. Et voilà, c'est de la marque employeur. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment réinventer la façon dont on voit ces avantages-là et dire en fait, non, ma marque employeur forte, c'est une marque qui est engagée.
Ah, mais je rêve qu'on me dise, tiens, viens bosser chez nous, on va réparer ton écran de ton téléphone, parce que je voulais vous en parler dans l'intro, mais c'est pas faux, il a subi la gravité. Et voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, dans Keep, qui t'a particulièrement marqué? Est-ce que c'est cette reprise? Est-ce qu'il y a des chantiers en ce moment, tu nous en parlais en off.
Oui, on a des chantiers très opérationnels. Non, il y a un moment, moi, qui a fait vraiment la différence il n'y a pas longtemps, où c'était la première fois qu'on était considéré dans des émissions ou dans des prix entrepreneuriaux, pas dans une catégorie engagée impact à côté. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça fait longtemps qu'effectivement, vous faites du reconditionné, c'est super, c'est écologique, on adore, on applaudit. Mais vous n'êtes pas pris au sérieux comme, on va dire, acteur économique.
Ok.
Voilà. Et là, depuis un certain temps, moi, je vois quand même un changement de mentalité. où on dit de plus en plus, il y a une petite voix qui monte qui dit en fait, peut-être que la performance d'une entreprise, c'est pas juste une performance financière. Et qu'il y a un impact qui pourrait être autre.
On en parlait tout à l'heure aussi, mais je pense qu'on en parlera encore plus tard. C'est vrai que c'est des thèmes, en fait c'est marrant parce que ton parcours il est intimement lié à tous ces thèmes qui sont clairement ceux qu'on vient prôner sur ces ondes et dont on parlera en troisième partie après la pause musicale. Mais avant ça, on va parler un petit peu plus de KIP et généralement du fonctionnement au quotidien. J'aimerais bien qu'on commence par la distinction que je pense qui mérite d'être faite. On parle de reconditionner. C'est quoi la différence avec de l'occasion? Est-ce qu'il y a d'autres termes qu'il faut désambiguer? Je ne sais pas si ça se dit. Mais...
Oui. Bah, c'est effectivement important de faire la distinction parce que généralement, les gens ne voient pas trop la différence. Une vente d'occasion, ça va être vraiment d'une personne à une personne. Mmh. Voilà, j'ai fini de me servir de ma voiture, j'ai fini de me servir de mon lave-linge, de mon armoire, que sais-je. Je vais la léguer à quelqu'un, je vais la vendre sur le bon coin. Souvent, c'est souvent de l'occasion. Mmh. Dans le reconditionner, c'est un peu différent, puisque là, il y a une tierce personne qui entre en jeu, qui, elle, récupère cet objet, nous, en l'occurrence, téléphone, ordinateur, fait un diagnostic, et surtout, lui met un petit coup de neuf. L'idée, c'est vraiment de lui rendre ses performances le plus proche possible du neuf. Mmh. Donc, ça veut dire changer la batterie s'il faut, tout ce qui peut, à l'intérieur, avoir besoin d'un petit coup de pouce. Parfois, c'est aussi augmenter les capacités d'un appareil, lui rajouter de la RAM. Désolée pour le jargon technique, je ne sais pas si...
C'est pas moi que tu vas effrayer, mais...
Et puis, surtout, le côté esthétique aussi. Parce qu'on le sait, hein, évidemment, quand on reçoit un appareil reconditionné, ce que le consommateur remarque en premier, c'est, est-ce qu'il est bien beau comme un œuf? J'ai pas envie d'avoir quelque chose qui est fissuré, qui n'est pas tout nickel, ou le clavier, il est bien beau, réimprimé, il a l'air tout neuf. Voilà. Et là, il y a eu une intervention humaine qui fait que cet appareil-là, il est prêt à avoir une seconde, une troisième vie. Et voilà, c'est tout l'intérêt. Donc, c'est la différence entre ton frère qui te file son vieil ordi parce qu'il en veut plus et acheter vraiment un ordinateur qui est remis en état pour fonctionner encore longtemps.
Ouais, je comprends. Je me frette sur les questions techniques parce que tu parles de RAM. Mais j'imagine que y a des matériels qui se prêtent un petit peu plus à l'upgrade que d'autres.
Oui, complètement.
Voilà. J'imagine que dans un téléphone, on a du mal à changer l'appareil photo, c'est tout un petit peu...
C'est ça. Surtout optimisé. Que... Il semblerait que les constructeurs, donc les grands qu'on connaît, ne se soient pas beaucoup concentrés sur le fait d'interchanger les pièces, la réparabilité. On y arrive de plus en plus, mais il y a plein de modèles, par exemple, d'ordinateurs qui n'existent pas sur le marché de reconditionné ou très peu, parce que tout est soudé à l'intérieur et on ne peut rien y faire.
Bien sûr.
Donc c'est aussi un vrai sujet déjà dans la conception en fait de faire des appareils qui peuvent durer sur lesquels on peut intervenir et là-dessus il y a aussi des initiatives sur le neuf qui sont hyper intéressantes je trouve. Je sais pas si t'as déjà entendu parler des ordinateurs framework par exemple.
Ça me parle pas non ça.
Et c'est vraiment un peu imaginer l'ordinateur du futur qui serait que en pièces détachées, qu'on peut changer, on le conçoit en fonction de ses besoins. Si je veux une plus grosse carte graphique, ceci, cela. Si je dois changer un élément qui est mort, je peux le faire moi-même.
Ok, voilà. Alors j'ai la ref pour les fixes. Parce que moi, je suis un gros geek, donc j'ai un ordi avec lequel je geek. Et du coup, c'est moi qui ai choisi les composants un par un. Et aussi, ça m'évoque un projet qui a été abandonné depuis par Google, mais c'était sur les téléphones, PhoneBlocks.
Oui. Le PhoneBlocks,
voilà. Fameux. Et du coup, j'imagine que c'est la même chose pour les...
Tout à fait.
Pour les ordis portables, du coup.
Exactement, pour les ordis portables. Incroyable. Et puis, dans les téléphones, il y a Fairphone qui continue aussi de faire des choses vraiment intéressantes pour rendre le numérique le plus responsable possible.
Incroyable. Ok, je me note tout ça dans un coin de ma tête pour quand j'en aurai marre d'avoir mon écran fissuré, surtout quand le reste rendra l'âme, parce que l'écran, c'est quand même pas le... C'est pas le pire à casser. Est-ce que... tout bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a des étapes que vous suivez dans la chaîne, on va dire, de production de KIP? Donc, comment est-ce que vous récupérez? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le processus, en fait, de la récupération d'un vieux matériel à sa revente?
Complètement. Généralement, nous, on fait donc de l'équipement d'entreprise, ce qui fait que généralement, nos clients, ils cherchent à avoir du matériel classique, que vous connaissez tous, des ordinateurs portables assez classiques, de bureaux. Et ça, là où on a de la chance, c'est qu'on en trouve beaucoup en France, en fait, puisque y a énormément de grands groupes qui notamment pour des raisons comptables, au bout de 2 ans ou 3 ans, s'en débarrasse. Mmh. Parfois, on parle d'ordinateurs qui n'ont jamais quitté le bureau, hein, qui sont restés posés sur une table pendant des années. Ah ouais. Et même pire, qui sont restés dans un carton, dans un placard, okay, parce qu'ils avaient suracheté par rapport à, aux effectifs réels. Donc voilà, il y a un gisement, on appelle ça, d'ordinateur, c'est la majorité de ce qu'on vend, qui est conséquent en France et en Europe.
Oui.
Et donc ça nous permet, nous, pour l'instant, de ne pas être inquiétés sur la disponibilité de ce qu'on peut proposer. Ensuite, nous, on ne reconditionne pas nous-mêmes. On est les distributeurs, en fait, d'ateliers de reconditionnement français.
Okay.
Et on est assez exigeant, on a quand même un cahier des charges strict, mmh, pour être sûr que les appareils qu'on vend, ils répondent aux attentes des professionnels. Bon, déjà, dans la seconde main, pour moi, la première impression, c'est la bonne. Il n'y a pas de seconde chance. Et on sait en plus que si on se plante, s'il y a, je ne sais pas, un défaut, quelque chose, c'est pas non seulement nous, on perd un client, mais c'est une perte de confiance dans toute la filière et, on va dire, dans le réemploi de façon générale. Donc, on se met vraiment la pression pour que nos clients finaux reçoivent quelque chose de très qualitatif. Et donc, voilà, on audite régulièrement, on visite aussi les ateliers où c'est fait. Et puis, on a des partenaires de confiance, du coup, maintenant, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Et donc, l'idée, bah, c'est, si vous avez besoin d'un ordinateur, d'un téléphone, vous appelez Keep. On essaie aussi d'être une vraie force de conseil, parce que être plus responsable aussi dans sa consommation d'informatique, c'est se poser la question de quoi j'ai besoin. Mmh. Et est-ce que vraiment il me faut une machine de guerre pour faire tourner les PDF et les Excel de mon boulot ? Peut-être pas. Voilà. Et beaucoup de boîtes ont été mal accompagnées, on leur a survendu des modèles de téléphone bien trop chers et pas adaptés. Voilà, il y a eu des pratiques pas terribles. Et nous, c'est aussi important de remettre de la confiance, d'accompagner, de dire on cerne votre besoin, on vous propose vraiment juste ce qu'il vous faut, on ne va pas vous pousser à la consommation, et voilà, et de livrer matériel qui répond aux attentes.
Incroyable. Et ces ateliers, donc, que tu me dis, c'est des ateliers français, est-ce que c'est des choses, est-ce que c'est des professionnels qu'un particulier peut aller voir aussi ? Enfin, j'ai du mal à concevoir comment est-ce que ça se, tu vois, matérialise.
Ça dépend. Y a un peu plusieurs cas de figure. Nous, on va travailler avec des petits ateliers qui parfois ont pignon sur rue.
Okay.
Comment on peut travailler avec des grosses chaînes de production où là, c'est des entrepôts, c'est autre chose complètement. Et ce qui est intéressant, parce que ça nous permet déjà de mailler tout le territoire français, d'avoir toujours du matériel qui n'est pas très loin de chez nos clients finaux. Mm-hmm. Donc quand on réfléchit à son impact environnemental, c'est bien aussi, quand on habite à Marseille, de pouvoir acheter un téléphone qui a été reconditionné à Marseille et pas à l'autre bout de la France.
Et si t'as frette un A320 pour emmener ton iPhone reconditionné de Marseille à Rennes, c'est problématique.
Exactement, oui. Et puis là franchement, il faudrait qu'on se pose des questions si c'était la méthode qu'on employait. Non. Là, on essaie d'être le plus local possible. Et c'est aussi, nous, une mission qu'on s'est donnée, qui est de, en fait, dans cette filière, d'essayer de structurer et d'accompagner tout type d'acteurs pour que la filière du réemploi dans l'informatique, elle fonctionne. Et donc, quand on va adresser des petites associations, des petites entreprises, ça permet de faire travailler des plus petits ateliers, qui sont souvent en plus des structures de l'ESS, donc vraiment des acteurs très, très engagés. Et puis, on a aussi la puissance de feu. Si demain, il faut déployer sur plusieurs sites d'une grosse PME dans toute la France, on a la capacité d'aller avec des acteurs qui sont plus historiques et qui ont les moyens de le faire.
Et tout en restant dans un cycle complètement vertueux. Quoi,
donc, c'est ça.
Très intéressant. Tu parles d'acteurs depuis tout à l'heure et du coup, ça m'amène à la question, mon téléphone perso est cassé. Est-ce que je peux faire appel à toi pour le réparer ou le reconditionner ? Est-ce que je peux te le donner ? Comment ça se passe ?
Alors, c'est une très bonne question. Dans notre équipe, chez Keep, ce qui est fou, c'est que on est avec nous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et on est vraiment toujours très très engagé au fait de répondre aux petits bobos de la tech de tout le monde. Et donc même si nous on va pas le faire, on trouvera toujours quelqu'un vers qui te renvoyer ou quelque chose pour que tu puisses gérer ton téléphone. Et là en plus, tu as beaucoup de chance, tu habites à Marseille. Et on est en colocation avec un super atelier qui s'appelle 90, qui est au Doc à la Joliette, et où là, il y a une boutique grand public qui est un peu une cuisine ouverte du téléphone. Tu peux venir faire réparer, regarder d'autres modèles de reconditionnés. Voilà, il y a tout à disposition. On a les ateliers juste au-dessus, c'est vraiment du super local. Et voilà, nous, on est très contents. C'est un de nos partenaires de confiance, ils font un travail formidable. C'est vraiment des techniciens de pointe. Donc voilà, si vous avez un petit bobo à votre téléphone à Marseille, vous savez où aller.
Bah, super sympa d'avoir fait leur pub. Mais la question qui était visée, je pense que tu l'as compris aussi, c'est quel type d'acteur. Mais en vrai, c'est vrai que tu m'en parles depuis tout à l'heure, des assos de plutôt toutes les tailles, des PME, des grandes boîtes. Est-ce que vous avez déjà eu des grandes entreprises un peu conséquentes qui ont fait appel à vos services?
On en a eu. Alors après, généralement, c'est sur des projets spécifiques. Évidemment, on n'a pas encore la taille nécessaire pour être le fournisseur officiel d'un grand groupe du CAC 40. Mais par exemple, on peut avoir des chaînes de magasins qui vont nous dire sur telle région, on a besoin d'équiper les personnels dans les magasins. Mmh. Et voilà, on voudrait prendre du reconditionné. Donc, on s'adresse à vous. On a aussi des groupes qui commandent chez nous quand ils ont besoin de tablettes ou de téléphones d'intervention sur site. Mmh. Alors bon, c'est un petit pas déjà vers le reconditionné, mais c'est vrai qu'ils se disent de toute façon, c'est des téléphones qu'on sait qu'on use très vite, qu'on abîme, donc on va pas acheter des derniers iPhones tout beaux, tout neufs.
Pas grave.
Donc voilà quoi, nous on fournit des téléphones avec des super grosses coques très résistantes, comme ça on peut aller sur les chantiers ou les sites industriels sans souci.
Trop bien. Et est-ce que vous avez des marchés publics aussi? Parce que je sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais ouais, moi je viens du public et d'ailleurs mine d'or aussi pour récupérer des appareils usés. Mais ouais, est-ce que vous travaillez un petit peu avec eux?
On travaille un petit peu avec le public complètement. C'est dans les choses qu'on essaie de développer de plus en plus. On a l'opportunité ces dernières années qu'il y ait une législation qui va en faveur du reconditionné. Donc il y a une loi anti-gaspillage déjà qui a été promulguée et une loi pour un numérique plus responsable qui est la loi REN. Et notamment, ça oblige toutes les collectivités, le secteur public à s'équiper de 20% de réemploi dans leurs achats.
Ok, ah, mais ça, je voilà. Suis okay.
Donc l'informatique reconditionnée, c'est une super occasion de... sans mauvais genou, de rentrer dans ces critères-là. Pour l'instant, c'est 20%. Ça risque d'aller sur 30% aussi d'ici 2030. Donc, ça va devenir sérieux. Nous, on travaille déjà pas mal avec des mairies, avec des écoles, dans le supérieur plutôt. Ils sont très satisfaits. Et c'est vrai que quand on est dans un moment où les budgets se resserrent un petit peu, enfin, je pense qu'on l'entend tous à la radio dans tous les sens, c'est hyper intéressant de se dire qu'on peut continuer d'équiper les gens avec du matériel qui est performant, qui est en plus créateur d'emplois sur le territoire, et puis qui sera deux fois moins cher.
Oui, que des sujets qu'on abordera encore un petit peu plus profondément après la pause. J'enchaîne un petit peu. Tu m'as parlé du fait que vous rejoignez la Convention des entreprises pour le climat avec la promo 2026.
C'est ça.
Déjà, félicitations. Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ce que ça représente pour KIP?
Oui. Là, on est dans les premiers, les premiers à rejoindre cette promo 2026 qui sera lancée au mois de mars, normalement. Les candidatures sont d'ailleurs toujours ouvertes. Et pour nous, c'est super important de rejoindre ce genre de projet parce que, et je pense que ça rejoint beaucoup la forêt des possibles, votre façon de faire, c'est de se dire tout seul, c'est très bien ce qu'on fait. Mais ça, on n'a pas vraiment une action qui est transformatrice. Et donc, se mettre en réseau et puis bénéficier de cette intelligence collective, ça a toujours été dans notre démarche. Donc, je pense que ça rejoint un petit peu la vôtre aussi.
Complètement.
Et la Convention des entreprises pour le climat, en fait, elle l'aide à passer d'un modèle économique qui est extractif à un modèle économique qui serait vraiment régénératif pour la planète. Nous, c'est une question qu'on s'est toujours posée parce que, évidemment, quand on fait du reconditionné, on a un impact positif sur l'environnement. Mais on est quand même dépendant du fait que les gens continuent de consommer des appareils électroniques. Il faut qu'il y ait toujours un gisement, un stock pour qu'on puisse continuer d'exister. Comment on essaie d'avoir vraiment un modèle plus vertueux et de se dire que notre activité, elle n'est pas juste compensatrice, encore une fois, mais vraiment régénérative pour le vivant.
Oui. Démarche incroyable. Est-ce que Je t'avoue que avant que tu m'en parles, je ne connaissais pas spécialement la Convention des entreprises pour le climat. Je ne sais pas si tu as quelques points que tu as envie de développer un petit peu sur...
Alors, moi, je connais surtout le parcours Région Sud. Okay. C'est celui qu'on a le plus... qui nous a été présenté. À la base, c'est quand même aussi l'opportunité pour, généralement, des plus gros groupes d'aller se former et d'établir une feuille de route vraiment ambitieuse.
D'accord.
Pour transformer leur activité. Parce que là, nous, KIP, on est une petite équipe, on a dans notre ADN déjà beaucoup de valeurs fortes autour de la préservation du climat. Donc la Convention des entreprises pour le climat, c'est aussi des boîtes comme Orange qui vont t'accompagner.
Ok, voilà. D'où le fait qu'effectivement, tu vas réseauter très fort. Si tu as réussi à choper le marché du numérique d'Orange, là, tu as de quoi te nourrir pour le reste de ta vie, je pense.
C'est ça, et je pense que ce sera très positif d'avoir finalement... des acteurs de toute taille qui interagissent, parfois des plus petits, qui challengent beaucoup plus les modèles parce que on a la flexibilité de le faire, on est engagé dès notre création, donc c'est plus simple. Et en même temps, voir comment un mastodonte comme Orange, comme Aromazon, vraiment peut s'engager dans une bascule, quelles mesures on peut prendre et comment on accompagne autant de salariés là-dedans, moi ça m'intéresse aussi beaucoup de voir ça, quoi.
Carrément, surtout que tu me parlais du fait qu'en ce moment vous êtes en train de changer pas mal d'outils en interne et que c'est déjà une galère, donc j'imagine bien que quand tu fais 100 fois la taille de KIP, ça l'est encore plus.
C'est sûr.
Tu m'as parlé aussi en préparant cette émission du fait que tu participes à créer une fédération d'acteurs locaux qui a engagé dans l'économie circulaire dans le coin, du coup. Je te laisse nous pitcher ça avant la pause, et puis on en parlera un petit peu plus après.
Ça marche. Je pense que Marseille, on est beaucoup à constater que c'est la ville de la débrouille. C'est une étiquette qui nous a été un peu collée par défaut, parce que pendant des années, il fallait bien s'en sortir avec ce qu'il y avait. Mais aujourd'hui, c'est une force. Et on est beaucoup à se dire qu'il faut renverser cette narration et dire, on réinvente les modèles de demain. La circularité, nous, on n'a pas attendu que ce soit la mode pour la faire. Donc, il y a des acteurs extraordinaires dans le reconditionné, dans l'informatique, mais pas que, dans l'électroménager qui sont sur le territoire. Il y a beaucoup de choses qui sont dans le textile. Marseille, c'est la capitale de la mode durable. On a eu la Slow Fashion Week en mois de juin. Donc, l'idée, c'est vraiment de se fédérer et d'imposer Marseille avec cet ADN un petit peu de capitale de l'économie circulaire en France.
Incroyable. OK. Peut-être que tu nous en diras un petit peu plus après la pause, comme dit. Mais pour l'instant, tu as choisi un petit morceau. Je te laisse nous en parler autant que tu veux nous en parler.
Ouais, comme une évidence, quand on fait de la seconde main, je vous propose One More Time des Daft Punk.
Thank you. whatever. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate. One more time, celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time.
Et vous êtes de retour sur les ondes de Radio Galère au 88.4. Vous êtes dans l'émission de La Forêt des Possibles. Et ce soir, notre invité, c'est Mirabel Lamoureux, qui est CEO de Keep. Donc Keep, qui est une entreprise qui fournit de l'équipement informatique reconditionné. Juste avant la pause, on te posait la question de... je vais divulgacher le nom de ce mouvement que tu crées, que tu... participe à créer Marseille Circulaire. C'est, si j'ai bien compris, quelque chose qui va nous permettre de faire de la, qui va vous permettre de faire de la collecte de matériel sur un territoire, la collaboration, de collaborer avec des communes, des collectivités, de sensibiliser la population locale peut-être aussi un petit peu. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que vous avez prévu comme action? Dis-nous ce que tu nous as pas dit juste avant la pause.
Ça marche. Donc l'idée avec Marseille Circulaire, c'est plusieurs choses. Déjà, nous, c'est nous fédérer acteurs de l'économie circulaire sur Marseille parce qu'on a plein de problématiques en commun et comment on peut se renvoyer la balle. Et on a plusieurs enjeux. Le premier, c'est évidemment de se faire connaître du grand public parce qu'il y a, comme je disais juste avant la pause, plein de choses qui se font, notamment dans l'upcycling. À Marseille, vous pouvez aussi acheter un lave-linge reconditionné localement, comme un téléphone reconditionné localement. C'est quand même des choses chouettes à savoir. Et le deuxième enjeu, c'est aussi un petit peu de plaidoyer, effectivement, et d'alerter les collectivités locales sur tout l'intérêt du réemploi. Nous, on s'interroge quand même quand on voit, par exemple... que dans des kits de rentrée qui sont distribués aux écoliers partout dans le département, dans la ville, dans la région. Généralement, c'est des trousses made in China qui sont vendues, enfin qui sont pas vendues, qui sont distribuées, pardon. Alors qu'on a des acteurs du réemploi qui font de l'upcycling avec, par exemple, des chutes de radeaux de sauvetage, voilà, des choses en plus qui, je trouve, dans l'imaginaire marseillais sont très, très évocatrices. Et donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dire finalement que les collectivités, elles doivent être un petit peu nos premiers soutiens pour l'économie circulaire. Et notamment, ça veut dire que la commande publique, elle doit prendre en compte pas seulement le prix, mais aussi des critères locaux. C'est-à-dire déjà, est-ce que ce sont des acteurs qui créent de l'emploi sur mon territoire ? Qui fournissent mes achats, et aussi des critères environnementaux. Est-ce que voilà, ça réduit des déchets ? Quel est l'impact environnemental de ce qu'on achète ? Je pense que c'est quand même des questions qui se posent. Et voilà, on parle beaucoup de réemploi, et j'aimerais aussi affirmer que c'est de l'emploi. Hein, petit jeu de mots, mais vraiment, l'économie circulaire à Marseille, c'est... Enfin, on a des données déjà sur l'ESS, on sait que c'est 1/5 de l'emploi à Marseille, par exemple, l'ESS.
Oh waouh, c'est immense.
C'est immense, okay. Voilà, c'est un secteur qui est vraiment costaud. L'économie circulaire, c'est encore en train d'être cartographié, mais c'est vraiment conséquent dans les acteurs économiques ici. Et c'est des emplois qui sont en plus stratégiques, parce que si on fait ce choix du réemploi, c'est des emplois qui sont non délocalisables et qui nous permettent d'acquérir une certaine souveraineté. Je parle du numérique hein, particulièrement, mais quand on sait... Que pour produire un téléphone, il faut plus de 60 métaux rares qu'on ne se procure pas en France, mais bien à l'autre bout de la planète, dans des conditions qui sont terribles pour la planète et pour les gens qui y travaillent. Et travail est un bien grand mot pour parler plutôt d'esclavage. Voilà. Et de maintien de conflits armés, vraiment d'extrême violence pour qu'on puisse continuer d'avoir tous des téléphones et des ordinateurs avec nous. Favoriser le réemploi. Faire en sorte que voilà, les ordinateurs et les téléphones avec lesquels on équipe nos écoles, nos mairies, tout le secteur public, ils soient réutilisés et ils proviennent déjà d'Europe, de France, plutôt que d'aller faire plus d'extraction et plus de neuf, je pense que c'est bénéfique et même stratégique, parce qu'en plus, on ne sait pas ce qui peut se passer demain si... Je veux dire, on est quand même dans un contexte international qui est un petit peu tendu. S'il y a des crispations, des embargos qui font qu'on ne reçoit plus de terres rares, on sera bien embêté et on sera content d'avoir des vieux ordinateurs à bidouiller et à réparer.
Et carrément.
À ce titre-là, je peux donner une petite ressource d'information que je trouve d'utilité publique. C'est un hors-série du Courrier international qui est sorti cet été qui s'appelle « L'Atlas des ressources ». Et qui commence en fait par l'impact que peut avoir l'IA sur le fait que ça dévore la planète, et ensuite par type de ressources, que ça soit donc les minerais, puis ensuite l'eau, l'énergie, la terre, la qualité de l'air. Il y a à chaque fois des cartes qui montrent bien quelles sont les incidences qu'il y a entre les enjeux géopolitiques, les crispations sociales, politiques, économiques qui peuvent exister dans chacun de ces pays-là, et puis ensuite les enjeux environnementaux. On voit bien aussi à quel point l'Europe est dépourvue d'une masse, on va dire, critique d'approvisionnement, notamment en métaux. Et donc, tout ce que vous faites, c'est ce que tu étais en train d'exprimer, Mirabel, c'est aussi des enjeux de souveraineté pour être le moins possible dépendant d'approvisionnements qui peuvent venir de territoires avec lesquels nous pouvons avoir des relations géopolitiques complexes, ou alors à certains moments d'arrêter certaines chaînes d'approvisionnement qui font que du jour au lendemain, l'Europe pourrait se retrouver complètement sans ressources là. Donc là, c'est vraiment des enjeux assez stratégiques finalement, pour pouvoir continuer à assurer des enjeux de souveraineté. Donc au-delà des questions environnementales et des questions de raréfaction de ressources, il y a aussi les enjeux de souveraineté qui parlent à tout le monde. Je voulais apporter ça. Et donc je vous invite aussi à lire ce magazine qui est assez synthétique et qui permet bien d'avoir des échelles de grandeur en tête quand on parle de ces questions.
Eh ben, j'hésiterai pas à te le piquer du coup, Marin, si t'es chaud, parce que ça m'intéresse carrément. Mais d'ailleurs, on a parlé un petit peu du travail de ces personnes qui extraient les terres rares à l'autre bout du monde dans des conditions horribles et du coup, d'ailleurs, qui sont très difficilement, dont le travail en fait est difficilement concurrentiable par nous Français avec nos lois qui visent à notre bien-être en fait. Mais y a vraiment un enjeu, je pense, pour vous qui faites tout localement, même si c'est du réemploi, comment est-ce que vous faites pour être juste rentable face à une concurrence qui va toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus délocalisée? Est-ce que c'est un enjeu pour vous?
Oui, c'est un enjeu. Et en fait, c'est des choix de consommation. Et on a eu dans les derniers mois, et c'est très bien, le sujet de la fast fashion qui a été au cœur du débat public, avec la promulgation d'une loi notamment qui est encore en cours. Justement, on alerte et les gens prennent conscience du fait que ces vêtements qui sont toujours moins chers, produits toujours plus rapidement, c'est désastreux pour la planète, c'est désastreux pour l'humanité et c'est de l'esclavage moderne. Et en plus, ça tue toute l'industrie, tous les commerces qu'on a chez nous. Moi, je pense que le sujet de la fast tech doit émerger de la même façon. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais le numérique, c'est 4% de nos émissions mondiales. C'est énorme. On produit en France 22 kilos de déchets électroniques par personne et par an.
22 kilos ?
22 kilos. C'est un enfant de 6 ans, hein, pour se représenter.
Ah ouais.
C'est beaucoup le matériel professionnel. Donc, on est dans une surconsommation folle. On a un rapport qui est complètement déraisonné à la tech. Ouais. C'est la panique dès qu'on a un téléphone en panne. Il faut absolument le racheter tout de suite. On se détache plus de nos smartphones. C'est presque comme un doudou. Et donc ça, il faut se rendre compte derrière de ce que ça coûte humainement, environnementalement. Et voilà, le point environnemental, les gens l'ont en tête, clairement. Là, je vais aller plus loin. Le point humain, donc on parle voilà, de ces extractions qui sont dans des conditions de travail horribles. Je vais même aller choquer un petit peu. Hein, mais aujourd'hui, on arrive à dire que chaque téléphone neuf dans votre poche, ce sont deux femmes violées dans le cadre de guerres qui sont perpétrées au Congo pour pouvoir maintenir l'extraction des ressources qui permettent de fabriquer vos téléphones.
Ça glace le sang comme statistique.
Voilà.
Je suis sans voix.
Voilà. Et donc, quand on sait tout ça, pour moi, on ne peut pas ignorer que consommer de la tech neuve, c'est vraiment un choix qui est catastrophique. Et donc, effectivement, on peut parler concurrence, business, mais ça paraît surtout très dérisoire à côté de la réalité humaine et environnementale de ce que c'est la fast tech aujourd'hui.
Ouais, sans compter que, en fait, on est toujours plus connecté, mais toujours moins connecté finalement. En fait, à être devant un écran, on a du mal à se parler en face et parler à nos voisins, en fait, tout simplement. Je sais pas si toi, t'habites dans un immeuble, est-ce que tu connais tes voisins, tu vois ? C'est pas la faute à ton téléphone, c'est
non,
pas ce que je veux
non,
dire.
Non, non, c'est vrai. Après, pour le coup, je vends des appareils électroniques, donc je vais pas dire l'inverse, mais c'est devenu un peu indispensable. On aura toujours du mal à s'en passer.
Absolument.
Voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour que nos achats soient plus responsables. Et ça se pose dans le textile de la même façon. C'est-à-dire, chacun a le droit de s'habiller de la façon qui lui plaît et dans les limites de son budget, évidemment. Mais on peut faire ça de façon beaucoup plus responsable qu'en commandant sur Chine à tout va.
Tu as tout à fait raison. Et en fait, ça, oui, même dans l'alimentation, c'est des questions qui se posent aussi complètement. J'ai noté un petit peu une question sur les limites du modèle que vous défendez. En fait, quels sont les obstacles? Comment est-ce que vous rencontrez, par exemple, les coûts logistiques? Est-ce qu'il y a une abondance de pièces détachées? Est-ce que l'obsolescence logicielle, elle vous empêche pas un petit peu de faire du reconditionné à tout va? Est-ce que c'est pareil, des enjeux qui...
Bien sûr, on en parlait plus tôt. C'est vrai que quand on fait de la seconde main, et ça suppose qu'il y a une utilisation de première main, exactement. Et puis parfois, même quand on essaie d'être le plus vertueux possible, de faire de la réparation, de prolonger la durée de vie, il y a effectivement des choses contre nous, comme l'obsolescence programmée. Et là, dans l'actualité récente, je ne sais pas si c'est quelque chose qui allait plus loin que les écosystèmes un peu tech, mais... Il y a Windows 10 qui arrive à la fin de son support.
Arrive sur mon ordinateur à moi, ouais. Dis-moi tout ce qui va m'arriver.
Exactement. Mais ça veut dire qu'à partir du 14 octobre, donc la semaine prochaine, ça va très vite, Windows 10 n'est plus supporté, accompagné, garanti par Microsoft. Donc voilà, il y aura plus de mise à jour, ça veut dire des failles de sécurité, etc. Aujourd'hui, tu as une association qui s'appelle Alta l'obsolescence programmée, qui a estimé que ça représentait 400 millions d'ordinateurs
oh, wow.
qui sont envoyés au rebut parce qu'ils sont plus compatibles avec les mises à jour Windows. Ils ne pourront pas passer à Windows 11. Mmh. C'est énormissime. C'est un coût de plus de 10 milliards d'euros sur le monde. Et évidemment, qui trinque ? Bah, les ménages les plus modestes, parce que qui a encore des ordinateurs qui tournent sous Windows 10 ? Les ménages les plus modestes et aussi tout le secteur public.
Bah, bien sûr.
Voilà, qui va devoir s'y mettre très rapidement. Ça va être une facture assez salée. Bon, évidemment, hein, nous, on est à disposition pour vous équiper en reconditionné compatible Windows 11, mais c'est quand même une aberration. Et,
Moi, ce qui me choque, je suis désolé, hein, je vais te pouffer des parts de marché, mais ce qui me choque dans tout ça, beaucoup, très fort, c'est pourquoi est-ce que déjà de 1, on est obligé de passer à Windows 11, qui fait sensiblement la même chose que Windows 10, mais avec 4 fois les ressources. Enfin, je veux dire, je vais pas les cracher trop dans la soupe, mais Windows XP, il avait déjà un traitement de texte pour Word, il y avait déjà Excel, il y avait même le Dimineur, et puis ça tournait sur 256 mégas de RAM, aujourd'hui on est sur des 16 gigas, quoi. Donc voilà, il y a des facteurs assez importants, j'arrête avec les trucs trop techniques de geek, promis. Mais il y a l'autre chose, c'est y a des alternatives sur les systèmes d'exploitation qui sont pas très user friendly. Mais moi, j'utilisais dans mon taf et d'ailleurs j'utilise toujours sur mon ordi un de mes ordi perso Ubuntu. Ça c'est sécurité sécuritaire. C'est un petit peu plus difficile à utiliser. Je le mettrais pas dans les mains de ma grand-mère, mais clairement dans celui de mes petits frères volontiers, quoi. Donc je sais pas si c'est aussi pour ces ménages les plus modestes qui vont trinquer, une solution.
Complètement.
Évidemment, je ne veux pas te saper encore une fois.
Ah mais non, mais pas du tout. Bah, en plus, encore une fois, je disais, nous, on est souvent là pour accompagner et trouver des solutions. Et quand tu es un petit peu dans l'informatique, de toute façon, tu deviens le contact référent de tout ton entourage sur ces questions-là.
Bah, voilà, enchanté, moi c'est pareil.
Exactement. Donc, évidemment, je ne vends pas des ordi à tout le monde, mais je vais accompagner pour passer sur Linux, pour passer sur Ubuntu, parce que voilà, c'est effectivement des solutions où il y a moins cette obsolescence programmée. Et ouais, c'est prise d'otage, en fait, quasiment, quoi. C'est du passage en force. Ouais. Voilà, et qui met tout le monde dans la panique. Donc, c'est, en plus, moi je me dis, c'est quand même des choix de consommation qui m'énervent au-delà du fait écologique, etc. De me dire, on me force à passer et à dépenser, quoi.
D'accord.
C'est toujours très désagréable.
Oui, bah, c'est très dommage, très très dommage.
Sur, sur ces questions-là, moi je me permets d'intervenir en tant que néophyte de ces questions qui posent environ 2 à 3 questions minimum par semaine à Félix sur les enjeux informatiques. J'ai assisté à une conférence de ta part, Mirabel, la semaine dernière. Tu parlais du rapport à la confiance et notamment, je pense que ça peut être un des freins, le fait qu'il y ait toujours ces innovations constantes, de se dire si jamais je prends une seconde main, peut-être que ça va planter, peut-être qu'il ne sera pas capable d'être en mesure de pouvoir passer tous ces paliers, toutes ces échelles que vous présentez là, ou alors est-ce que la donnée va être détournée ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y avait dessus avant. C'était un des points centraux que tu mettais en avant dans ta présentation. Je voulais savoir qu'est-ce que vous mettiez en place concrètement et comment vous arriviez à pouvoir générer cette confiance, parce que quand on n'est pas un initié, on comprend rien. Enfin, on comprend les grandes lignes, mais dès qu'il faut rentrer dans la technique, on s'en remet à des experts et on a besoin de se sentir en sécurité.
Effectivement, le sujet de la confiance, il est vraiment au cœur de ce qu'on fait. Et je pense que c'est le sujet principal sur lequel on se concentre chez Keep, qui est de dire tout est fait dans la technologie informatique, pour qu'on se méfie. Enfin voilà, tout est opaque. Comme tu disais, acheter un nouvel appareil, par exemple, c'est un tracas pas possible. On compare, on demande l'avis à 12 copains qui sont peut-être un peu plus qualifiés, tout ça. C'est normal parce que effectivement, on est maintenu dans ce truc de on n'est pas expert. Personne n'a envie d'être sur le banc de touche en se disant je veux pas être victime de l'obsolescence programmée, je veux pas être celui qui a le téléphone qui marche plus, machin. Et on en parlait. Tout cet écosystème de la tech, les géants californiens, tout ça, ils se sont construits en faisant en sorte qu'on détourne le regard, qu'on ne voit pas que ce soit les mines d'extraction, qu'on ne voit pas non plus, dont on a moins parlé, mais les chaînes d'assemblage en Asie, parce que c'est guère mieux pour les conditions de travail. Je ne parle même pas effectivement du sujet de la donnée, du traitement des données personnelles, des écoutes, de tous les scandales qu'il y a pu avoir là-dessus. Évidemment qu'on se méfie en fait de nos appareils. Et aujourd'hui, nous, le sujet majeur est donc de rétablir la confiance. Et comment on peut faire ça ? Avec une tech qui est plus transparente, une tech qui est faite en France, enfin qui est au moins refaite en France, qui est plus respectueuse de l'environnement, où en fait on ouvre un petit peu nos cuisines et on est capable de montrer comment ça fonctionne, comment on ouvre un téléphone, comment on le répare, et que voilà, on... ouais, c'est ça, vraiment rétablir cette confiance dans la technologie et dans celles et ceux qui la font. Je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Le plus possible.
Mais carrément, et en première partie d'émission, tu m'invitais à ramener mon téléphone qui, je le rappelle, est un peu cassé, chez 90 au doc, juste au-dessus de chez vous, si j'ai bien compris.
Juste en dessous.
En dessous, oui, en dessous, pardon. Ouais. Vous êtes juste au-dessus. Ouais. Bah, je pense que je passerai voir, parce qu'en plus, il y a carrément moyen que ça titille. Je me rappelle que je changeais les piles de mes cartouches de Pokémon sur la Game Boy pour avoir encore la sauvegarde qui s'efface pas, quoi. Donc carrément que regarder des gens réparer des téléphones, ça titillera mon moi réparateur geek informatique, tout ça. Et comme le temps file, je te propose qu'on passe à notre dernière partie.
Ça marche.
Voilà. Alors j'ai essayé. On va se projeter ensemble. On va se projeter ensemble dans un futur souhaitable dans 10 ou 20 ans. Je t'invite à fermer les yeux.
Ok.
Prendre quelques respirations profondes. Expire par le nez. Expire par la bouche. Peut-être pas trop dans le micro quand même. Ce qu'on va faire ensemble, c'est se dire que dans 20 ans, on y est. On a réussi. On a réussi à réduire drastiquement nos empreintes, en fait, et notamment celle du numérique. Et là, je vais te poser quelques questions qui tu vas essayer de me donner des réponses assez courtes et qui sont ciblées forcément sur cette projection dans des futurs que... souhaitable. Donc la première, c'est à quoi ressemble l'informatique qui aurait réussi sa transition ?
C'est, je pense, en informatique qui est locale, déjà, souverain, comme on se disait tout à l'heure. Et une image que j'aime beaucoup et qui est assez utopique pour moi, qui est de me dire, peut-être qu'un jour, on aura, comme parfois sur des produits d'alimentation, une étiquette sur le téléphone ou l'ordinateur avec le visage et le nom de la personne qui l'a réparé, quoi. C'est-à-dire, ce téléphone arrive, il a été reconditionné à Marseille par José, et puis... voilà, ce serait vraiment une traçabilité complète des produits et une tech beaucoup plus humanisée aussi.
J'adore. Quels métiers ou savoir-faire vont refaire surface ?
Justement, je pense tous ces métiers de la réparation. C'est des formations qui sont déjà très, très en vogue et qui, en plus, permettent d'avoir des compétences qui sont diverses. Quelqu'un qui sait faire de la microsoudure sur un téléphone, il sait aussi faire les cartes électroniques de l'électroménager. Donc vraiment, je pense que c'est des compétences qui vont être très, très précieuses dans les années à venir.
Top. Est-ce que tu as une image, une scène, un film que tu aimerais choisir pour incarner ce futur souhaitable ?
Eh bien non, parce que je pense qu'on manque de ça, en fait, de récits. On voit beaucoup de dystopies, on est très fort pour inventer vraiment Wall-E, Ready Player One, tout ça. J'ai que des images angoissantes comme ça qui me viennent. Et je pense que... ils sont encore inventés ces récits positifs de futurs souhaitables et qui nous laissent imaginer un monde avec un numérique responsable.
Très bien. On la connaît déjà, mais est-ce qu'il y a un mot ou une expression qui circule pour décrire ce futur souhaitable ? Donc dans l'informatique responsable.
Oui, pour moi, le futur, il est reconditionné, hein, évidemment.
Évidemment. Et dès demain, quel geste simple chaque auditrice, chaque auditeur, chaque organisation peut-elle mettre en place pour ouvrir la voie ?
Vous allez me voir venir avec mes gros sabots, mais réparer son téléphone, prolonger sa durée de vie quand vous en avez déjà un, et puis si vraiment il faut en acheter un autre, par pitié, de seconde main.
Bien sûr. C'est tout pour ce Jungle Speed. Dans cette émission, on aura parlé aujourd'hui de beaucoup de sujets liés évidemment au numérique, par le prisme du numérique plutôt. On a parlé d'engagement territorial, on a parlé d'économie circulaire, on a parlé des défis et des limites de ces modèles aussi. On a parlé de politique publique un petit peu rapidement, on a parlé de communication, de perception du public. C'est énormément d'enjeux qui sont... et on a parlé de souveraineté aussi d'ailleurs, de nos données, mais de notre matériel, Et en fait, oui, voilà, c'est énormément d'enjeux qui sont au cœur de ce qu'on essaye de porter comme problématique, de faire parler comme problématique à la Forêt des Possibles. Donc merci beaucoup pour cet échange super riche. Est-ce qu'on peut te rejoindre, soutenir? Comment est-ce qu'on collabore avec Keep? Ou est-ce qu'on peut continuer à suivre ton aventure?
Sur les réseaux, on est très présents sur LinkedIn notamment. Parce que quand on s'adresse aux entreprises, c'est un petit peu essentiel. Voilà, donc Keep sur LinkedIn, on poste plein de choses. On s'intéresse au sujet du réemploi de façon large. On ne parle pas que d'informatique non plus. Voilà, et puis je pense que si ça permet cette émission et de nous suivre de façon générale, de planter une petite graine et prochaine fois que vous avez à faire un achat, que ce soit un téléphone, plein de choses d'autres, des chaussures, un frigidaire, de penser au reconditionné et à la seconde main, c'est qu'on aura... déjà une petite victoire.
Impeccable. J'en profite pour préciser, parce qu'on ne l'a pas précisé une seule fois dans l'émission, mais Keep, ça s'écrit avec 3 E.
Oui.
Voilà, K-E-E-E-P. Voilà. Mm-hmm. Sinon, ça va être plus dur de vous retrouver.
C'est ça.
Et est-ce que tu as des actualités dont tu as envie de nous parler rapidement ou à rappeler? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, par exemple, Marseille Circulaire,
oui, on aimerait se lancer bientôt. Et puis, tous ceux qui se reconnaissent dans cette mission, qui ont envie d'y participer, que vous soyez peut-être un indépendant, un artisan, que vous faites partie d'une association, d'une entreprise qui est engagée sur ces sujets-là, faites-nous signe et rejoignez-nous avec grand plaisir.
Eh bien, c'était Mirabelle Lamoureux pour Keep au micro de La Forêt des Possibles sur Radio Galère 88.4. Et on vous souhaite une très bonne soirée, chères auditrices, chers auditeurs, et à bientôt.